Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, l'amyotrophie spinale infantile ou SMA infantile. Et pour débuter cette saison, nous allons parler bioéthique avec notre invité que nous avons le plaisir d'accueillir, Monsieur Philippe Berta. Monsieur Berta, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Monsieur Berta, vous êtes député de la 6e circonscription du Gard, spécialiste en génétique moléculaire. Et en 2019, vous avez été co-rapporteur du projet de loi bioéthique qui est notre sujet du jour. Alors tout d'abord, Monsieur Berta, qu'est-ce que la loi bioéthique ?
C'est une très bonne question. C'est une volonté, en fait, à l'origine du président François Mitterrand, qui était une réaction, finalement, aux avancées, aux progrès très rapides de la science, de la recherche, de façon globale, et en particulier de la recherche en santé, et aussi, donc, une volonté donc, d'accompagner cette révolution permanente, aussi bien côté recherche que côté, bien sûr, application. Donc, c'est un texte qui a été mis en place de mémoire, c'est une mémoire lointaine, on est dans les débuts des années 80, en particulier sous la houlette d'un sénateur et d'un député, Claude Hurier et Cyrus Claude, qui ont donc co-rédigé ce premier texte de bioéthique, qui donc définit un cadre précis dans lequel doit s'effectuer tout à la fois des approches cliniques, on va en parler, j'imagine, beaucoup de reproduction, mais aussi un cadre juridique pour notre recherche, que ce soit sur le diagnostic, que ce soit sur l'utilisation, par exemple, des cellules souches, que ce soit sur l'utilisation des embryons surnuméraires, la création de chimères, etc., etc. Donc, c'est une loi qui était amenée à l'origine à être révisée tous les 7 ans, puis on est passé à un régime de 5 ans, et puis aujourd'hui, en fait, le retard pris fait que, de mémoire, la dernière loi de bioéthique, donc la dernière révision en 2019, nous a fait prendre beaucoup de retard puisque nous sommes retournés sur une loi à renouveler à 7 ans.
Et quelles sont les spécificités de la loi bioéthique en France ?
Alors, je ne sais pas si elle a des spécificités. En tout cas, elle a été princeps dans sa conception et dans sa mise en œuvre parce que nous sommes le pays qui avons, et c'est souvent le cas d'ailleurs, puisque vous êtes maladie rare, vous aussi, dans ce champ-là, ça a posé un cadre. Ce cadre ensuite a été, je dirais, copié, non, mais enfin imité certainement, aussi bien par d'autres pays que par l'Europe. Elle a comme originalité, je dirais, d'avoir deux aspects, et c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait discutable dans son, en particulier, dans ses finalités et dans son calendrier, c'est-à-dire qu'elle accompagne les évolutions sociétales. On a bien vu que cette dernière loi de bioéthique a accompagné la procréation médicalement assistée pour toutes, et dans un même temps, elle définit un cadre de recherche et elle essaye de le faire évoluer, ou suivant les cas, de faire évoluer ce cadre de recherche. Donc, c'est quelque chose que j'avais discuté, moi, dès le départ de la loi de bioéthique, c'est que l'aspect sociétal, c'est quelque chose qui accompagne, en tout cas, certainement, des évolutions sociétales, donc qui nécessite du temps, qui nécessite de la discussion, et le Comité national d'éthique qui participe, bien sûr, par ses avis, qui contribue à la loi bioéthique, a fait ce travail-là. Et puis, vous avez l'accompagnement de la recherche. Et l'accompagnement de la recherche, je l'ai dit dès le départ, me semble-t-il, la recherche va très vite. Et se pencher sur les avancées en recherche santé, en recherche sur la reproduction, par exemple, tous les 5, voire même tous les 7 ans, me paraît assez délicat et assez difficile parce que la recherche va beaucoup plus vite. Il n'y a pratiquement plus une année où il n'y a pas une avancée majeure qui devrait nécessiter une réflexion donc éthique. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on se donne du temps? Je vais prendre un exemple concret. Cette loi de bioéthique que nous venons de voter, donc qui a été votée après un long parcours parlementaire, puisque ça a pris plus de 2 ans, donc nous avons voté en 2021, n'a pas eu le temps de s'intéresser à ce que l'on appelle l'édition génomique, plus connue peut-être sous le nom de CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, qui est en fait une technologie qui permet de corriger une phrase ADN. Et ça pose beaucoup de questions. On en a vu l'utilisation de cette technique par un scientifique chinois qui a sorti complètement du cadre justement de l'autre biotique. En fait, on n'a pas eu le temps de discuter parce que il y avait déjà un reliquat de beaucoup de choses à faire, et je dirais que l'édition génomique continue sans réflexion réalisée à travers la loi de bioéthique.
Alors, vous l'avez évoqué, pourquoi une nouvelle loi bioéthique a été mise en place le 29 juin 2021 ?
Elle a été mise en place par la volonté d'aller plus loin, de faire évoluer ce cadre. Ce cadre est un cadre quand même relativement rigide, qui doit s'adapter, qui doit évoluer en fonction d'une pression sociale, sociétale, ou en, bien sûr, comme je l'ai mentionné, en fonction d'une évolution rapide de nos savoirs, de notre recherche, pour pouvoir bien sûr se fixer des limites. Il est, par exemple, pour un exemple très simple, il est clair que nous sommes aujourd'hui dotés d'outils en génétique, j'ai parlé de techniques d'édition génomique, pour corriger le génome, l'ADN d'une cellule. La question maintenant, c'est de savoir de quelle cellule nous parlons. Il est clair que les lois de bioéthique, dans l'esprit du législateur, dans mon esprit aussi d'ailleurs, doit permettre cette technologie de correction de l'ADN, mais uniquement dans des cellules qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans les cellules somatiques, et pas dans celles que nous transmettons, c'est-à-dire en aucun cas dans les cellules germinales. Voilà un exemple type d'une barrière éthique qu'il faut bien sûr repréciser et mettre dans, enfin, je vais dire, inscrire dans le moule de façon définitive. Un autre exemple, bon, nos collègues embryologistes, spécialistes de la reproduction, ont nécessité, pour améliorer toutes ces technologies de procréation assistée, de pouvoir travailler sur des cellules souches embryonnaires humaines. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas la souris ? Parce que justement, eh bien, il y a des spécificités à la cellule humaine qui ne sont pas rencontrées dans les cellules de souris, donc il faut leur donner cette autorisation, mais tout en se garantissant des limites de l'utilisation. C'est-à-dire, il est hors de question, par exemple, de tenter de créer un embryon in vitro, j'allais dire, à des fins uniquement de recherche. On est prêt à en faire à des fins médicales pour réimplanter chez la mère, on est prêt à récupérer des produits qui n'auraient pas été réimplantés, mais on ne créera jamais d'embryon avec comme première finalité la finalité recherche. Donc voilà, ce sont des exemples précis. Tout ça, ce sont des techniques qui sont quand même relativement toutes récentes, qui vont très très vite. Donc l'accompagnement est obligatoire pour donner les limites que nous souhaitons, mais aussi pour donner peut-être un peu de libéralité lorsque nous sentons que c'est nécessaire et qu'il ne faut pas s'opposer à certains progrès qui sont pour le compte des vrais progrès pour l'espèce humaine.
Et dans le cadre de cette loi, quelle est la place du dépistage néonatal ?
Très bonne question, j'allais dire de la part du dépistage tout court. Ça a été un de mes combats pendant cette loi de bioéthique, et c'était un combat que j'ai partiellement perdu par l'extrême rigidité de beaucoup de parlementaires, la difficulté auquel on a affaire, qui est une difficulté attendue, c'est que la quasi-totalité, bien sûr, des parlementaires ne sont pas scientifiques, ne comprennent pas forcément la chose scientifique, la chose génétique, le dépistage, et sont prompts à, et des fois aussi un peu poussés peut-être par certains courants de pensée, mais je ne vais pas rentrer dans ce discours-là, sont un peu prompts à dire non sans réfléchir à l'incidence. Donc nous avons réussi à pousser à une petite évolution du diagnostic néonatal. Nous sommes passés de 6 à 13 maladies génétiques dépistées donc à la naissance, ce qui est très loin, me semble-t'il, en tout cas selon moi, très 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 loin du nécessaire. Je n'ai pas de chiffres précis, mais enfin, la majorité des sociétés occidentales comme les nôtres s'autorisent 30 à 40 dépistages, et je vais revenir là-dessus, mais pas pour le plaisir, c'est parce que derrière, ça permet d'anticiper une conduite à tenir vis-à-vis de l'enfant dans ses premières semaines, ses premiers mois, voire ses premières années de vie, et puis ça permet par un diagnostic ultra rapide, et ça permettra encore plus demain, d'intervenir sur le plan thérapeutique. Et on sait à quel point beaucoup de ces pathologies génétiques nécessitent une intervention rapide pour être efficace, avant que j'aille dire que le mal s'installe trop. Donc, très compliqué. Moi, je suis spécialiste de génétique, de génomique. Faire entendre l'idée qu'en néonatal, dès qu'il y a soupçon, dès qu'on a quelques indices un peu compliqués sur la posture de l'enfant, sur son comportement, la façon de se tenir, sur etc. Se lancer, par exemple, dans quelque chose qui aujourd'hui se fait très facilement, à des prix, somme toute, très raisonnables. On parle de quelques centaines, voire moins, d'euros, donc, et qui peut donner des résultats en moins de 24 heures. Ça s'appelle le séquençage du génome pour aller rechercher la présence de telle ou telle mutation. Eh bien, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas dans notre pays, et moi, je le regrette, parce que, bien sûr, ce n'est pas la panacée, ça ne répondra pas à toutes les questions, mais l'expérience étrangère tend à prouver que dans 50-60% des cas, ça permet la conclusion, ça permet de typer la pathologie, et ça permet donc la prise en charge de cette pathologie, plutôt que voir cet enfant, et donc sa famille, bien sûr, partir dans une épopée des plus dramatiques à mon goût, dans ma vision, qui est une épopée d'errance diagnostique. On appelle ça l'errance diagnostique. On va donc transporter l'enfant, multiplier les rendez-vous dans tel ou tel service hospitalier, dans tel ou tel hôpital, en espérant pouvoir obtenir ce fameux diagnostic. Donc, on a un tout petit peu progressé, mais vraiment, le généticien que je suis ne peut pas se contenter de ce petit progrès. C'est dommage parce que c'est renoncer finalement à toutes les avancées de ces années passées et des années en cours et à celles à venir qui permet aujourd'hui de relier de plus en plus aisément pathologie et cause génétique.
Pour conclure, Monsieur Berta, est-ce que l'Europe ou d'autres pays européens peuvent influencer la France pour avancer sur ce sujet du dépistage néonatal ?
Moi, je le souhaiterais. Je le souhaiterais parce que, parce que d'abord, je suis pro-européen quand on est scientifique, qui ne le serait pas déjà. Je le souhaiterais parce que il y a d'abord une question d'égalité. Je pense que chaque citoyen européen doit pouvoir accéder aux mêmes soins, aux mêmes diagnostics. Et puis, au-delà du diagnostic, dans les maladies rares, vous savez bien que ces maladies rares sont très nombreuses. On en a probablement d'ailleurs encore certaines à découvrir, à mieux caractériser. On parle de 7000, on parle de 8000 maladies rares. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un seul pays européen, fortiori, ce n'est pas la France, qui va être en capacité, en charge, 7000, 8000 pathologies. Et que l'idée est plutôt, et ça avait fait l'objet d'une conférence dite de consensus avec les différents ministres de la Santé, il y a maintenant désormais un tout petit peu plus d'un an, c'est de se distribuer le travail et de se dire, bon, ben, ce pays-là est plus en avance et va donc couvrir ce champ thérapeutique-là, ce type de pathologie, etc. Parce qu'il y a aussi la question du coût de ces pathologies et du coût des thérapies. Et quand vous voulez, c'est facilement compréhensible, attirer un peu l'intérêt d'abord du politique, mais aussi bien sûr de l'économie, de l'industrie pour ces pathologies, je pense compréhensible que ben, quand vous passez d'un format de 3 millions pratiquement exclusivement d'enfants français atteints de maladies génétiques, de maladies rares, à un format, à, on a coutume de dire, 35-40 millions de citoyens européens, eh bien, l'attractivité n'est pas la même, et donc vous pouvez espérer une réaction et une prise en charge beaucoup plus aisée. Donc le bon format est clairement le format européen. La France a été pionnière pour le bled biotique, je l'ai dit, elle a été pionnière pour la mise en place de l'organisation de la gestion des maladies rares sur son territoire, centre de référence, centre de compétences, filières, je ne vais pas décrire tout cela ici, copié dans les deux cas par d'autres pays, il y a toujours à améliorer, mais je crois qu'il est vraiment important d'envisager l'échelon européen, je finirai en disant sur un troisième exemple, qui est aussi d'adapter au plus vite nos structures d'évaluation du médicament et de ces nouveaux médicaments qu'on appelle des biothérapies au système européen, parce que l'European Medical Agency, qui est la structure qui organise l'évaluation des médicaments, et on l'a vu à l'œuvre pour la vaccination contre la Covid, me paraît une structure de très grande qualité qui fait un très bon boulot. Mais nous, en France, on ne se contente pas de l'avis des Européens, on se sent obligé de faire mouliner ça aussi par de procédés plus classiques, peut-être même trop anciens, d'évaluation, et on perd du temps. Et aujourd'hui, on a pratiquement un médicament sur trois, et en particulier donc des biothérapies évaluées positivement par l'Europe, qui ne sont pas accessibles aux patients français. Et je ne peux que m'élever contre cela et trouver ça totalement injustifiable, voire intolérable.
Eh bien, merci mille fois, Monsieur Berta, de nous avoir fait mieux connaître cette loi de bioéthique et ses spécificités françaises. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de ces maladies rares, Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.